Quelles sont les règles du jeu du monde actuel? C'est le point de départ de la réflexion de Julien de Vorex dans son livre « Le monde change et on n'y comprend rien » afin de tenter de décrypter les raisons qui font que l'on se sent souvent perdu face aux multiples événements du monde. De manière très accessible et en 300 pages, il nous entraîne dans une myriade d'analyses pour tirer les ficelles des grands enjeux contemporains. Dans cet épisode de Oser, nous abordons le parcours de Julien et plusieurs points du livre que j'ai trouvés marquants. En particulier, nous parlons de comment vivre avec une anxiété croissante face aux catastrophes sociales et écologiques qui sont notre quotidien. Nous discutons aussi de notre vision tronquée du monde, de ce que cela implique et de comment y remédier. Enfin, nous parlons de notre capacité d'action en tant qu'individu, de ses limites, de la posture de militant et du fatalisme. C'est un échange très enthousiasmant qui permet de prendre un peu de recul et de faire évoluer notre regard sur nous-mêmes et ces autres qui ne partagent pas notre opinion. Bonjour et bienvenue, je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute!
Bonjour Julien.
Salut, ça va?
Bah ouais, super. Bienvenue sur Oser.
Bah merci.
Julien, c'est la deuxième fois que je te reçois dans le podcast. La première, c'était il y a plus d'un an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es la première personne que je reçois deux fois. Et j'en suis vraiment ravi. Tu viens ici notamment pour nous parler d'un livre que tu as sorti récemment suite à 8 ans de podcast sur Sismic, mais aussi pour nous parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu retires en fait de toutes les discussions que tu as pu avoir de cette enquête que tu mènes depuis 8 années maintenant. Et puis je suis vraiment ravi aussi de te recevoir une deuxième fois puisque tu as beaucoup inspiré mes réflexions à travers ton podcast que j'écoute depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'il n'y a pas un seul épisode que j'ai raté, c'est pour dire. Donc je suis vraiment ravi qu'on puisse s'entretenir à nouveau aujourd'hui.
Moi aussi, écoute, ça fait 5 ans en fait que j'ai lancé Sismic, mais effectivement 8 ans que j'avais quitté ma vie d'avant, va-t-on dire. Enfin, 8 ans que j'ai eu une espèce de déclencheur qui m'a lancé dans cette enquête sur le monde qui aboutit aujourd'hui en quelque sorte avec la sortie de ce livre. Donc je me dis c'est bien de revenir en parler parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont mûri depuis notre dernière conversation.
Bah, génial. Peut-être que pour introduire le propos, tu peux nous parler un petit peu déjà de toi, de ton parcours, revenir sur justement un petit peu cette bifurcation que tu as opérée. Et puis ensuite, on pourra aborder le sujet du livre et plusieurs thématiques notamment que j'aimerais en ressortir.
Oui, alors mon parcours, enfin, tel que je le raconte, hein, puisque c'est toujours évidemment sursimplifié, je vais faire mon petit storytelling. Alors mes études, on commence par là, hein. Alors je suis né en France, en région parisienne, voilà, dans une famille classe moyenne tout à fait normale. Père cadre, mère institutrice, comme ça je te remonte au tout début du parcours. Et puis après j'ai fait une école de commerce, et puis j'ai commencé à travailler dans le marketing pour d'abord au Club Med, puis chez Chanel, puis j'avais mis le doigt dans l'industrie du luxe que j'ai plus quitté pendant 15 ans. passé par Publicis. Après, je suis parti à Hong Kong avec Publicis pour gérer les comptes de ce qui s'appelle Kering Group aujourd'hui, la Gucci Group. Et après, j'étais chez Burberry où je gérais tous les comptes, les médias en fait, la publicité, les médias, le marketing pour l'Asie jusqu'en 2015. Et c'est pas ma bifurcation en fait a commencé à. En janvier 2015, où j'ai démissionné, j'ai quitté, après m'être marié en 2014 avec mon épouse, on a tous les deux quitté nos boulots et on a quitté Hong Kong après y avoir passé 5 ans. Et on a pris en gros une année pour prendre du recul, pour lever nos œillères, hein, c'est comme ça que je l'ai décrit, pour faire à la fois un peu de développement personnel, puisqu'on arrive à 35 ans, je dis souvent que j'ai fait un peu la crise de la quarantaine en avance. Donc prise de recul sur moi-même, sur ma carrière, sur ce que je voulais faire de la suite. Et puis surtout, j'avais envie d'ouvrir les chakras et de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans le monde. Parce que j'en parle un peu au début du livre, mais ce n'est pas du tout un livre autobiographique, on y reviendra. Mais en disant que mon travail, qui était un peu un travail de prospective aussi, puisque je travaillais beaucoup sur les problématiques de transformation digitale, internet, ce que ça a changé pour les business, etc., m'avait amené à penser un peu le monde de demain, lire beaucoup de rapports. Et puis, à force, je suis tombé sur la fin du pétrole, sur le climat, sur la problématique écologique notamment, mais pas que. Et ça m'a donné envie de. Ça m'a fait réaliser à quel point je n'y comprenais rien. Et ça m'a donné envie de prendre du recul et d'ouvrir tout ça, quoi. Donc, on a pris le temps de faire ça. Après, retour en France. Retour pour moi dans un boulot un peu alimentaire chez LVMH et dans la transformation digitale. C'était très sympa, hein, mais j'étais vraiment un peu moins dedans qu'avant, on va dire. Et lancement du podcast, et puis retour à Hong Kong pour un autre boulot, Covid. Je fais ça en accéléré. Hein, et fin du boulot, et puis là, je me suis dit, OK, je peux plus faire ça, j'y arrive plus. Donc, je vais me consacrer uniquement au podcast. Et donc, ça fait 2 ans que je me consacre à Sismic, qui est une enquête sur. Ouverte donc il y a 5 ans sur le fonctionnement du monde. Voilà.
Ok, super. Et tu en as tiré en partie un livre qui est sorti il y a un mois à peine, c'est ça?
Exactement. Il est sorti il y a un mois et ça s'appelle Le monde change, on n'y comprend rien, qui était déjà comment on veut dire, le slogan de Sismic depuis quelque temps. Et qui dans lequel je fais la synthèse de ces 8 années de réflexion sur le monde. C'est pas du tout une synthèse du podcast. Souvent les gens pensent, comme je suis podcasteur, puisque c'est ce qui se fait souvent, que ça va être les meilleurs épisodes ou une espèce de résumé des épisodes, mais c'est pas du tout ça que j'ai fait, même si je m'appuie sur quelques-uns des épisodes qui sont mis en référence d'ailleurs souvent pour un peu. Pour présenter la réflexion, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont mises dedans, et c'est une réflexion sur le fonctionnement du monde. Donc c'est un essai qui part d'une question de départ, qui est à quoi on joue. À quoi est-ce qu'on joue en tant qu'individu et que civilisation, et donc quelles sont les règles du jeu du monde actuel, et qu'est-ce qui nous entraîne dans cette époque de. Donc je pars de cette idée de confusion, de cette idée que. Qui est que moi-même je n'y comprenais rien et que finalement après avoir enquêté pendant des années j'ai parfois l'impression de toujours rien comprendre parce que ça va trop vite, parce que enfin, il y a plein de raisons pour y revenir sur lesquelles qui expliquent le fait qu'on soit parfois un peu perdu. Et donc j'essaie d'y voir plus clair. Je pars de ce doute et puis j'essaie de reconstruire à partir de ce doute en allant voir qu'est-ce qui sous-tend les événements du monde, qu'est-ce qui sous-tend nos trajectoires actuelles et vers quoi ça nous mène.
Ouais, j'ai lu le livre alors que c'était pas forcément prévu tout de suite, tu vois. J'ai profité d'un trajet pour le lire, et franchement, il est vraiment top, hein. C'est hyper bien vulgarisé, je trouve, pour des choses qui sont éminemment complexes. Notamment, il y a toute une partie sur les réseaux sociaux qui est un sujet qui, moi, me parle particulièrement, où je me suis dit, putain, bravo, chapeau pour avoir réussi à retranscrire ça de manière. Très intelligible, très compréhensible pour un public large, ce qui est vraiment pas simple. Et donc ouais, je recommande vivement la lecture du livre. Il se lit très bien, assez vite, et ça donne vraiment matière à réfléchir, même quand on a l'impression d'avoir creusé tous ces sujets depuis un moment.
Bah merci. Et c'est voilà, l'idée c'était de faire quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre. C'est publié chez First, qui est une maison d'édition qui est plutôt grand public, qui fait des bouquins de vulgarisation. Donc c'était un peu ma contrainte, mais c'est aussi de toute façon ce que je voulais faire. Et c'était de rendre accessible toute cette complexité qui est dont j'avais parfois du mal à parler, parce que c'est difficile quand on commence à mélanger tous ces sujets autour de soi, on s'y perd un peu très vite. Donc j'avais besoin aussi de poser, de réfléchir à comment expliquer les choses simplement et comment aussi recoller tous les morceaux du puzzle ensemble, puisque Sismique, c'est pas un, ça parle d'écologie, de climat, des limites planétaires, mais pas que de ça. Et c'est, je voulais surtout pas me cantonner à ça. Et d'ailleurs, le livre, finalement, passe assez peu de temps sur ces questions-là. Et donc, ça parle, comme tu le dis, du fonctionnement de notre système dans son ensemble. Donc, je parle d'économie, de finances, de cognition, des réseaux sociaux, de l'économie de l'attention, de la technologie en général, de la société, etc. En essayant de regarder comment toute la machine fonctionne, mais en rendant la chose digeste, ce qui était l'exercice difficile, parce qu'il faut à la fois trouver le ton. Donc le ton est un peu léger, il y a quelques petites blagues qui sont dedans, et le livre est très découpé, donc ça permet de s'arrêter, de faire des pauses, d'y revenir, mais toujours avec ce fil directeur qui est l'espèce d'histoire que je raconte autour du jeu, à quoi on joue et comment on fait pour mieux comprendre le terrain de jeu qui est la planète dans son ensemble, le jeu de la société, notre jeu de la famille à l'intérieur de ça, etc., etc. Donc je suis content que tu me dises que c'est assez digeste alors que c'est très dense et qu'on parle d'énormément de choses.
Ouais, tout à fait. Et puis il y a pas mal de points aussi que tu abordes en donnant pas mal de sources et d'éléments pour aller creuser pour ceux que ça intéresse. Donc c'est voilà, c'est à la fois très accessible et en même temps il y a pas mal d'éléments pour creuser. Avant qu'on rentre en fait un petit peu parce qu'on va pas retracer tous les éléments du livre, ça serait
C'est quand même 300
bien.
pages, oui, donc
Voilà, bien trop long, bien trop lourd, et puis c'est plus intéressant de le lire, pour être honnête. Mais en revanche, il y a plusieurs points que j'aimerais aborder avec toi qui m'ont particulièrement parlé, enfin que j'ai voilà, qui parce que c'est des thèmes que j'ai pas forcément abordés dans le podcast ou que j'aimerais au contraire aborder avec toi par rapport à l'analyse que tu en fais. Mais avant, est-ce que tu peux juste nous parler aussi encore un petit peu de ton parcours personnel? Parce que tu sais, sur Osé, j'ai fait pas
Bien
mal
sûr.
d'interviews de bifurqueurs, de gens qui ont décidé de changer de vie pour s'engager sur des enjeux sociaux, écologiques, ou en tout cas pour cesser de nuire ou avoir une utilité sociétale dans leur activité. Toi, tu disais, tu as arrêté de travailler pour un grand groupe il y a 2 ans maintenant pour te consacrer exclusivement à Sismique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans ton mode de vie, dans ta, dans, ouais, dans, par rapport aux revenus, par rapport
Ouais.
à ce que tu fais concrètement?
Alors cette bifurcation, pour moi, ce qui peut être intéressant déjà de mentionner, c'est que ça s'est fait très progressivement, alors en plusieurs étapes. On a souvent des histoires de transition qui vont être un peu radicales ou qui sont très sexy, entre guillemets, c'est-à-dire ah, j'ai démissionné, et puis après je suis parti faire autre chose, et puis on a tous un peu, enfin beaucoup de gens ont cette aspiration. Parfois on se rend compte qu'on est dans la matrix, dans la matrice, pardon, enfin on est dans le boulot quotidien, et puis on en a marre, on se dit je voudrais vraiment autre chose. Et notamment depuis les réseaux sociaux, on voit tous ces. C'était à la mode il y a quelques années, tous les digital nomades qui nous vendent la possibilité. C'était moi, Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, qui m'avait un peu poussé aussi à une première forme de bifurcation, en me disant, OK, il y a une autre manière de vivre sa vie. Donc j'ai eu ce point de départ à un moment donné, quand j'ai démissionné, justement, le côté larguer les amarres pour aller voir autre chose. Donc ça a été une première prise de risque, puisque quelque part on quitte une première fois une trajectoire qui était pour moi très confortable, assez tracée, dans un gros boulot à Hong Kong, qui est une ville monde avec énormément d'opportunités, avec le gros salaire, avec tout aussi tout ce qui est grisant, tout le côté grisant de ce type de vie. Donc ça a été peut-être la chose la plus dure à faire, qui était à 35 ans, de dire OK, je quitte tout, et puis et puis c'est pas une année sabbatique, hein, parce que j'étais plus dans le système français, donc il y a pas vraiment pas de parachute, on revient pas dans son travail après. Et avec ce saut dans l'inconnu et avec tout le côté effectivement sexy de la chose. Par contre, il y a une première chose à dire, c'est que ça déjà en soi c'est pas facile, c'est-à-dire que assez rapidement j'ai expérimenté ce que ça voulait dire que d'être confronté au vide. Et je me souviens, pendant cette année, j'ai bien mis 6 mois en fait à rentrer dans ce vide, à accepter le vide. Donc c'est la première chose qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a un côté, il y a un côté grisant au départ, et rapidement on se retrouve sorti d'une routine dont on se rend compte qu'elle était confortable, et on ouvre les possibles. Mais ouvrir les possibles, bah, c'est aussi se poser la question de savoir ce qu'on fait de ces possibles. Et souvent, on se rend compte qu'on ne se l'est pas posé avant. Parce que, notamment quand on a un profil un peu comme moi, c'est-à-dire qui est un peu dans les rails, et puis voilà, on fait les études, ça se passe bien, on fait une école de commerce qui est en fait un non-choix. Hein. Souvent, les gens qui font une école de commerce, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils vont là-dedans, et puis on apprend à faire un peu tout et n'importe quoi et un peu rien souvent. Et puis après, on est tracé. Moi, typiquement, on tombe dans une industrie qu'on n'a pas vraiment choisie. Et voilà. Et donc, on se retrouve tout d'un coup avec tout un tas de questionnements sur ce qu'on veut faire vraiment, qui on a envie d'être. Et puis voilà. Donc ça, déjà, c'est pas simple. Et pour moi, en tout cas, ça n'a pas été simple. Il m'a fallu du temps pour vraiment lâcher prise et pour me dire, OK, laisse venir. Laisse venir, vois ce qui vient. Ça m'a pris, ouais, que je te dis, quasiment un an. Et ma réponse à ça, dans un premier temps, ça a été une fois que j'avais accepté ça, ça avait été c'était d'accepter cette incertitude et d'accepter que je ne trouverais pas les réponses peut-être de manière immédiate. Et je suis revenu dans le système. Je suis revenu à Paris, je suis revenu chez LVMH parce que mon épouse, suivant aussi le même trajectoire, on s'est dit, bon, il y en a un des deux qui doit, qui doit payer les factures, donc c'est tombé sur moi, mais entre autres parce que, bah, accessoirement, elle était enceinte et que voilà, il y avait aussi autre chose à faire. Donc c'est pareil, un truc très classique. Et donc je suis revenu dedans, et donc j'ai coté le côté un peu facile de la chose, c'est-à-dire que, enfin facile, il faut revenir dedans, mais bah, déjà on y revient, on n'est pas tout à fait le même. Donc je suis pas revenu avec le même regard, avec la même innocence par rapport à ce que je faisais, et donc en fait je suis jamais vraiment revenu dedans. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, moi j'ai eu le besoin de lancer autre chose, donc ça a été le podcast, ça a été mon idée parce que j'écoutais moi-même beaucoup de podcasts. Et donc je faisais un petit peu cette transition en même temps que j'avais gardé ce filet de sécurité qui était d'être salarié. Et après, donc je suis reparti à Hong Kong, qui était plus un choix de vie personnelle, parce que, enfin, pour plein de raisons, mais dans une plus petite structure qui n'était pas sur le même rythme, etc. Et c'est quand ce truc-là s'est arrêté que j'ai recommencé à faire des entretiens pour revenir de manière raisonnable dans le monde salariat, que là je me suis dit que c'était plus possible. Donc ça a été mon deuxième déclencheur, où pendant ces entretiens, je me souviens très bien, où je me disais, okay, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus prendre un boulot qui va me permettre dans lequel je vais devoir prendre l'avion à droite à gauche tout le temps, puisque c'est des jobs régionaux. Je ne peux plus faire un travail auquel je crois vraiment plus. Donc c'est fini, quoi. Je sors vraiment, je largue les amarres. C'est cette phrase de Christophe Colomb que j'avais mis sur ma porte pendant pas mal de temps, qui est que tu ne peux pas découvrir de nouvelles terres, où tu peux pas traverser l'océan sans avoir perdu de vue le rivage. Je dis, OK, là j'y vais. J'y vais vraiment. Je tire ce fil sismique qui est déjà bien en place, que je vais essayer de monétiser. Et voilà. Et puis, donc c'est à ce moment-là, pour le coup, que j'ai dû faire ce travail de réflexion par rapport à cette stabilité, par rapport à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a plein de choses. Je me suis fait coacher, hein, d'ailleurs, pour ça. D'accepter vraiment l'incertitude, parce que là, pour le coup, on se retrouvait à deux sans revenu fixe. Donc
Ouais.
voilà. Donc il a fallu quitter Hong Kong, revenir dans un endroit qui coûtait un peu moins cher. Et bah, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, c'est-à-dire un peu plus dans le dur, où là, tu dois vraiment diviser ton salaire par 4 ou 5, avec donc la vie d'un entrepreneur, entre guillemets, ou d'un auto-entrepreneur, où on est tout le temps sur le pont, il faut tout le temps y aller, il faut trouver les moyens de développer. Et donc il y a cette injonction au ralentissement d'un côté. Et puis de fait, qui est très difficile à tenir, parce que de fait, bah, on doit payer les factures. Donc on est dedans, et donc j'essaie de trouver à la fois de sortir de cette accélération qui est inhérente aussi, de sortir de ce rythme qui est inhérent à toute personne qui doit aller chercher des contrats, et en même temps de ralentir. Donc c'est pas simple tous les jours, c'est pas un mythe, hein, c'est de faire le choix de quitter le salariat, ça a des conséquences, et donc c'est un trade-off, comme on dit. Je suis encore dans cette espèce de stabilisation, donc à essayer de vivre des dons du podcast, mais j'ai que 170 donateurs pour 100 000 écoutes par mois, tu vois, donc c'est pas simple. Et puis j'essaie de me réinventer tout le temps, quoi. Donc, mais il y a du stress à gérer, il y a du stress quotidien, et puis de temps en temps on se dit c'est quand même une chance de faire ça. Parfois on se dit mais ok, en fait, il faudrait que je revienne à faire ce que je faisais avant parce que je m'en sors pas. Enfin, c'est voilà, donc c'est pas de tout repos.
Ok, là tu es vraiment en plein dedans toujours et avec ouais, cette vie
Oui,
qui.
parce que c'est pas stabilisé et j'essaie de le stabiliser, notamment en sortant ce livre, en me disant ok, ça va apporter des choses. Déjà, je stabilise mon point de vue sur le monde, ce qui est déjà une manière de. Puisqu'en même temps que tu fais en même temps qu'il y a cette transition très matérielle entre guillemets à gérer, il y a aussi, moi, je dois gérer aussi toutes les réflexions sur le monde puisque c'est mon métier. Plus une forme de présence sur les réseaux sociaux que j'aime pas, donc, mais je suis obligé de le faire. Donc tu as aussi plein de choses qui sont liées au sujet que j'ai choisi de développer. C'est-à-dire que je me prends toute l'angoisse du monde tout le temps, quoi. Donc comment tu gères ce truc-là? Voilà, c'est pas facile, on pourra en reparler aussi maintenant. J'arrive à me détacher de tout ça, mais ça n'a pas été simple au début.
D'accord, abordons-le maintenant, peut-être. Comment, par rapport à l'anxiété que ça peut générer, effectivement, de réfléchir à toutes ces problématiques, à tous ces enjeux sur le fonctionnement du monde, voire lire beaucoup de rapports, de documents qui t'annoncent pas mal de nouvelles assez négatives, au fait de ne pas réussir à mettre le doigt sur finalement une solution, à une certaine échappatoire. Comment est-ce que tu vis avec ça?
Alors chacun a sa manière de gérer ça, hein. C'est une conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Ça dépend de ce qu'on voit, d'une part. Déjà, effectivement, on ne voit pas tous la même chose, hein. Ça, c'est aussi l'introduction, enfin toute la première partie du livre est là-dessus, sur cette idée que il y a beaucoup de confusion et que la confusion est différente pour chacun. Et puis, donc c'est toujours très personnel. Ma réponse à moi, ça a été d'une part de faire ce travail intellectuel de recherche, donc de prendre les lunettes des autres pour voir ce qu'ils voyaient, d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement de ce grand jeu. Donc maintenant, je commence à avoir des idées très très claires sur ce qui nous arrive, sur pourquoi ça nous arrive. C'est ce que j'ai voulu partager dans le livre. Et le fait d'écrire ce livre m'a permis aussi d'avoir évidemment cette forme de lucidité. Donc ça, déjà, ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé un certain nombre de réponses. J'ai trouvé des clés de lecture. Je propose des clés de lecture. D'ailleurs, je ne propose pas des réponses. Je ne dis pas le monde est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis voilà ce que je vois, voilà ce que j'ai compris. Et d'apporter, et comment on va dire? C'est un peu la méthode Spinoza, si tu veux. C'est comment la raison et l'intellect peut nous aider à acquérir une certaine de joie au quotidien parce que on a une prise de recul par rapport aux événements du monde et on se connaît mieux soi-même, on essaie de regarder ce qui nous bouge, pourquoi nos émotions viennent, pourquoi elles viennent pas, etc. Et donc petit à petit, on arrive à avoir une forme de sérénité par rapport à soi-même et par rapport au monde. Et c'est d'ailleurs très, très. Moi, ça passe par la philo, en fait, ma sérénité, entre guillemets, actuelle, hein, même si elle est tout le temps perfectible et tout le temps et en construction, puisqu'on ne peut pas tous les jours être philosophe, hein, mais c'est ma bouée de secours, elle est là-dedans. C'est-à-dire que je dirais, ce qui se rapproche le plus, c'est le stoïcisme. C'est une forme de détachement par rapport aux événements du monde, une prise de recul. C'est-à-dire que ça a été d'arriver à la conclusion qui est que la marche du monde ne dépend pas de moi. Donc j'arrête de porter le poids du monde sur mes épaules. Et je fais la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Enfin, c'est cette citation de Marc Aurèle, hein, qui résume un peu le stoïcisme, c'est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Aussi évoqué Épictète, qui est ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Donc c'est de revenir à cette idée que finalement, ça part de mon jugement. mon angoisse existentielle part du regard que je porte sur les choses, et donc j'essaie de travailler à ce regard et de prendre une certaine forme de distanciation en disant ok, je peux agir sur le monde, mais sans me préoccuper du résultat de cette action, qui est aussi une citation de la Bhagavad Gita pour aller un peu voir les philosophes orientaux. Mais... Donc je trouve des réponses là-dedans. Et donc par rapport à cette éco-anxiété ou cette angoisse de... Puisqu'il n'y a pas que l'écologie, mais tu vois, ça peut être l'angoisse sur le... liée à la descente énergétique, liée à la géopolitique, liée à la politique pour certains. C'est de me dire que je maîtrise pas tout, que je maîtrisais jamais tout, et donc de me recentrer sur ce que je peux faire moi-même à petite échelle. Et voilà, donc maintenant j'ai une angoisse qui est plus liée à ça, qui est plus liée à mon quotidien et à comment jouer ma propre partie. Mais je me suis déchargé de l'angoisse du monde. Maintenant je l'observe, si tu veux. Je l'observe et j'essaie même de m'en amuser, en fait.
Ok, bah, écoute, super, faudra qu'on en reparle, que tu me donnes quelques conseils pour ne pas pour
Ah,
réussir
c'est pas
à
simple, hein. C'est
prendre
un
ce
processus,
recul-là.
hein. Tu peux pas, parce que c'est une chose de le dire, c'est une chose de dire ouais, c'est une bonne idée, et puis c'est autre chose de le vivre. Et je t'avoue que parfois, quand tu es face à une mauvaise nouvelle ou quand tu lis un énième rapport sur le climat, juste pour ne parler que de ça, ou quand tu parles comme quelqu'un, tu fais une interview de Claire Nouvian et que tu éteins le micro, tu fais waouh, sur les océans, ok, ça va avoir encore plus mal que ce que je pensais. Donc, tu as un petit truc où tu dis, bon, on est mal barré, mais voilà, maintenant j'essaie de me dire, bon, bah, finalement, écoute, moi je fais partie plutôt des plus chanceux, peut-être des 1% des plus chanceux sur Terre. J'ai tiré quand même pas mal de cartes qui sont les bonnes dès la naissance, hein, tu vois, en étant né en France, un homme blanc, classe moyenne, voilà. Donc, déjà, tu es quand même plutôt bien barré. Donc, me dis, ok, j'arrête de m'angoisser pour le futur, et puis j'essaie de mener une vie, j'essaie de créer ma propre éthique, en fait. Tu vois, tu reviens à ça, c'est encore une fois, c'est très spinoziste quelque part, c'est tu dis, je ne suis pas, je ne, est-ce que je suis libre de mes propres choix? Déjà, c'est une question qui est complexe, quand on voit à quel point on est conditionné par tout un tas de choses. Est-ce que je peux changer le monde? Voilà, ça aussi, c'est une question complexe, hein. On peut essayer de pousser, hein, mais voilà. Et donc, je me dis, par contre, je peux essayer de me créer ma propre. Qui je veux être, en fait? Qui je veux jouer à être? Qui je veux jouer à être aujourd'hui, ou cette année, ou les 10 prochaines années? Quelle histoire que j'ai envie de me raconter? Quelle histoire j'ai envie qu'on raconte sur moi, hein, pour les plus ambitieux? Et quelles sont mes valeurs? Et comment j'ai envie de me comporter? Et peu importe. Si ça a un impact, en fait, t'en reviens toi-même, quoi. Donc ça,
Ouais,
c'est un
c'est.
autre exercice.
Mais ça, on en reparlera sur le réussir à dissocier son action de l'impact. C'est ce que disent aussi des militants comme Baptiste Morisot ou Corinne Morel-Darleux, notamment. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal, en fait, je le comprends intellectuellement, mais j'ai toujours du mal, en fait, à me dire que tu peux agir en fait, sans te préoccuper réellement de l'impact sur le monde, du fait que vraiment ça change les choses ou non. Rationnellement, je le vois bien, mais tu vois, émotionnellement, à partir du moment où le sujet est si prégnant, si fort en toi, je vois mal comment y arriver.
Après, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas pour tout le monde. Tu vois, et c'est très bien, c'est-à-dire que tu vas avoir des individus qui vont avoir besoin d'être dans l'action, voire dans l'action de type activisme, tu vois, une action très forte, parce que s'ils ne le font pas, en fait, ils vont être en énergie basse, comme on va dire, où ça va les angoisser, donc tu as besoin d'être là-dedans. Et puis après, à chacun sa forme d'action. C'est-à-dire que moi, ma manière d'agir, si tu veux, c'est d'écrire un livre, d'interroger des gens et de donner à réfléchir, de partager en tout cas mes propres questionnements. Il y en a qui s'y retrouvent, il y en a que ça fait avancer. Et pour l'instant, ça me convient. Peut-être que demain, ça ne me conviendra plus, que je me dirai non, non, mais en fait, il faut que je fasse autre chose, faut que peut-être que j'aurai un sentiment de révolte qui sera, ou de colère, ou quelque chose comme ça qui sera beaucoup plus prégnant. Mais pour l'instant, ça s'est transformé. Ce qui me correspond, voilà, j'ai jamais une personnalité, si tu veux, d'engagement qui me pousse, qui m'a poussé à une forme d'engagement pour pouvoir transformer le monde. C'est intéressant, j'en parle souvent avec mon épouse qui, elle, a fait beaucoup plus d'associatifs, qui voulait vraiment, qui était une révoltée un peu plus que moi, et qui, parce qu'elle le vivait, donc très bien. Bah, tu vas là-dedans, et puis t'évolues, puis au bout d'un moment, ça ne te correspond plus. T'as plus la même énergie, t'as plus. Souvent d'ailleurs, c'est ce que tu fais quand on vieillit, hein, tu vois, c'est quand on est jeune, on a beaucoup plus. Peut-être aussi parce qu'on a une forme de naïveté d'un côté, ou qu'on n'a pas encore tout compris, mais certainement c'est aussi qu'on a une pulsion qui est beaucoup plus forte, une pulsion d'énergie de vie qui est beaucoup plus forte, une quête de puissance qui est beaucoup plus forte. Et après, tu vois, tu peux aussi résumer, bah après, toi, t'es moins en forme, t'es plus crevé parce que t'as les enfants, t'as passé une mauvaise nuit, donc tu te dis, bon, écoute, le changement du monde, il sera pour demain. Donc, et voilà,
Et
donc c'est très
bah,
individuel.
je voudrais rebondir justement sur ce côté individuel, enfin, le fait que ça dépend de qui on est, de comment on se perçoit, etc. Par rapport à toute cette première partie du livre, en fait, sur la vision tronquée que l'on a du monde. Et pourquoi je le relève? Parce que c'est quelque chose, en fait, que je ressens au quotidien en échangeant avec les gens, et puis même par rapport à moi-même, c'est le fait que on a une tendance à objectiver sa subjectivité sans prendre, en fait, conscience de qui l'on est, des marqueurs sociaux, culturels, qui font que on adopte une certaine vision du monde, mais qui n'est pas forcément partagée. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Pourquoi déjà, en fait, on a une vision qui est tronquée du monde et ce que ça implique?
Oui, je pense que c'est le point de départ. Et c'est pour ça que c'est. J'y ai accordé, je sais pas, 80 pages dans le livre. Ça, c'est vraiment la première partie avant de parler du monde. Avant de parler du monde, c'est, je pense, essentiel de parler de notre perception du monde. Parce que, comme tu l'as dit, ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus un sujet aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que on n'arrive plus à se parler, en fait. Et que tout le monde est. Et on n'arrive plus à se parler parce que tout le monde est persuadé d'avoir raison. Et donc c'est pas neuf, hein. Mais donc c'est intéressant de développer ça, de comprendre pourquoi on est persuadé tous d'avoir raison et pourquoi on ne doute pas suffisamment en fait. Bah, moi je parle de la manière dont j'explique ça, c'est que j'utilise l'image des lunettes qu'on porte pour regarder le monde, qui sont des lunettes filtrantes et déformantes et dont on ne peut pas vraiment se défaire. On est avec, on les a toujours, voilà, et puis elles évoluent avec le temps. Et pour moi, c'est une question essentielle parce qu'il s'agit d'abord de prendre conscience que tous, on porte des lunettes et que donc on ne voit pas, on ne regarde pas le monde tel qu'il est vraiment. Et que donc, celui à qui on parle, lui aussi porte des lunettes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors souvent, on pense que parce qu'on utilise les mêmes mots et parce qu'on est tous capables de raison, qu'on devrait tous penser pareil. Et donc ça crée beaucoup d'incompréhension. Parce que souvent dans un débat, typiquement, on va dire mais je ne comprends pas que finalement un débat, c'est je ne comprends pas pourquoi vous ne pensez pas comme moi. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer que ma manière de penser est meilleure que la vôtre. Elle est plus logique, elle est plus voilà, elle est plus juste. Enfin, il y a plein de manières de décrire ça. Et t'en reviens à. Donc, c'est intéressant d'une part de se rendre compte de ça et d'autre part d'essayer de comprendre quelles sont ses propres lunettes pour déconstruire un peu. Ça commence par là, déconstruire d'abord sa propre vision des choses et savoir d'où elle vient. Tu as cette citation de Schopenhauer hein, qui est Nous ne reconnaissons pas les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais comme elles nous paraissent. Et c'est très vieux en philosophie, hein, c'est aussi l'allégorie de la caverne de Platon qui imagine qu'en fait on ne voit que les ombres du monde et les ombres projetées du monde, mais on ne voit pas le monde et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est aussi le voile de Maya chez les hindous, qu'il y a une espèce ou la matrice, hein, tu vois, qui a été repris par la matrice, qu'on ne voit pas le réel tel qu'il est. Mais plus prosaïquement, en fait, c'est cette idée que d'abord on ne voit pas tout, se rendre compte que d'abord on ne voit pas tout, qu'on ne voit que ce que nos yeux perçoivent, que nos sens perçoivent, entre guillemets. Et qu'il y a toute une partie du monde qui nous échappe à tout moment. C'est-à-dire que je suis en train de discuter, il y a plein de choses qui se passent autour de nous, même peut-être dans mon appartement plus loin, et puis surtout dehors, et puis dans le monde, qui nous échappent totalement et qu'on ne connaîtra jamais. Donc, et que d'autres voient, d'autres vivent. Donc, tout ce qu'on vit, et donc quand on a le vécu de quelqu'un, quand on a des opinions qui se sont construites et quand on a développé une vision du monde, on l'a fait par rapport à notre vécu, par rapport aux informations qui sont arrivées jusqu'à nous, par rapport à nos expériences. Et quelqu'un d'autre, fatalement, n'a pas eu le même vécu, n'a pas eu la même expérience, n'a pas eu les mêmes informations, et donc il n'aura pas tout à fait la même vision des choses. Et puis au début, même, on ne naît pas avec les mêmes lunettes. On est, je parlais de cet exemple aussi, on est avec certains prismes qui nous conditionnent sur le langage. Le langage qu'on utilise fait qu'on va avoir, on va pas avoir les mêmes mots, donc on va pas tout à fait avoir la même manière d'organiser notre pensée. Tu vas avoir ta couleur de peau qui fait que tu vas pas être, selon le pays où dans lequel tu as grandi, tu vas pas être, on va pas te faire le même retour. Donc ça va créer ton identité, tu as ton genre, enfin tu as plein de choses qui sont des questions très d'actualité qui vont conditionner ta manière d'être au monde. Et puis tu as nos sens aussi de manière plus prosaïque qui sont limités. Il y a des choses qu'on ne voit pas tout simplement qui nous échappent. On voit pas toutes les couleurs qui existent, pourtant elles existent. On n'entend pas tous les sons, on voit pas, enfin voilà, on voit, il y a tout un tas d'ondes que d'autres animaux perçoivent qu'on ne voit pas. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les biais de perception, qui est que mécaniquement, notre cerveau va filtrer tout un tas de choses, parce que sinon, il buggerait complètement. Donc, en permanence, en fait, notre cerveau est en train de simplifier le réel, et on a besoin de cette simplification. Et puis, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire que même dans ce qui arrive à notre cerveau, de manière plus ou moins consciente, pour pouvoir en faire sens, on a ce qu'on appelle le concept d'heuristique, c'est-à-dire que notre cerveau va simplifier en permanence. Et c'est donc ces biais cognitifs, il y en a plus de 200, même plus de 300, j'ai plus le chiffre exact, qui sont un peu mieux connus aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de vulgarisation sur ces sujets. Mais tu as par exemple le biais de confirmation qui nous fait dire j'adore ce que tu dis. Enfin, quand on dit j'adore ce que tu dis, c'est en fait on est d'accord, tu penses comme moi. Ça vient confirmer quelque chose que je pensais déjà. Tu as l'effet de vérité illusoire, par exemple, qui est la tendance à croire qu'une information est vraie après une exposition répétée de cette information. Tu as l'effet de halo, tu vois, qui se produit quand la perception d'une personne ou d'un groupe est influencée par l'opinion qu'on a préalablement pour l'une des caractéristiques. Donc, par exemple, une personne que l'on juge belle physiquement, serait perçue comme plus intelligente ou digne de confiance. Enfin, il y en a plein comme ça. Tout ça, et puis, sans s'en rendre compte, souvent, c'est fait de manière très inconsciente, parce que d'abord, on ne les connaît pas. Ça vient, on se fait toute une construction du réel qui est complètement faussée, en fait. Et donc, souvent, on vient post-rationaliser nos opinions. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Et on post-rationalise nos opinions et nos choix. C'est-à-dire, j'ai fait ça parce que, évidemment, c'était tout à fait logique de faire ça. Je pense ça parce que c'est évidemment logique de penser ça. Et je suis plus logique que l'autre. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, la plupart du temps, on ne se construit pas avec la logique. On se construit de manière totalement biaisée. Mais on pense toujours être logique parce qu'on a besoin de se penser soi-même logique. Et donc, on va justifier nos choix de manière raisonnable, alors qu'en fait, ça vient d'une pulsion, ça vient d'une envie, ça vient de quelque chose d'autre. Donc, en fait, je résume ça en fait en disant, on confond la carte avec le territoire. Parce qu'on a une carte, parce qu'on a une interprétation du monde, on pense qu'on connaît le territoire. Mais en fait, il y a une différence entre une carte et le territoire. La carte n'est pas le territoire. Donc, c'est très important de penser ça. Et après, il y a tout un tas d'autres choses que je développe qui, à notre époque, vient rendre tout ça encore plus difficile. Parce qu'on a les réseaux sociaux qui sont conçus par des gens qui ont fait des études de psychologie. Mark Zuckerberg a fait des études de psychologie, le fondateur d'Instagram a fait des études de psychologie. Ils connaissent l'existence de ces biais sociaux. Ils ont construit des technologies qui viennent jouer sur cette, on va dire, ce terreau fertile à la manipulation. Et donc, qu'ils ont construit des choses extrêmement puissantes qui vont nous enfermer dans des bulles d'information, qui vont nous jouer sur nos biais de confirmation, qui font que on ne voit pas ce que l'autre voit, on n'a pas le même fil d'information que l'autre, et que donc les sociétés se divisent, et que on est de plus en plus sûr de nous parce qu'on nous enferme là-dedans, etc., etc. Plus les médias qui vont raccourcir le temps de parole, qui vont favoriser le clash. Etc., etc. Donc il y a toutes des structures, c'est pas aussi simple de dire que le fonctionne comme ça, toutes des structures modernes aujourd'hui, économiques, politiques, médiatiques, technologiques, qui font que ça devient encore plus difficile de faire sens du monde. Et si tu rajoutes par-dessus ça le fait que le monde s'est largement complexifié, que ça va de plus en plus vite, qu'on ne sait pas comment est fait un smartphone qui est l'outil qu'on utilise le plus au quotidien, on n'a aucune idée de comment nos outils fonctionnent. Donc tous les philosophes de la technique vont te dire qu'à partir du moment où on ne maîtrise plus notre outil, bah, on perd en liberté, on perd en puissance. Bah, on est dans cette situation qui est totalement confusante, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais totalement bordélique, qui fait qu'en fait, on a beaucoup de mal à voir ce qui se passe.
Et tu disais, le fait d'avoir cette vision tronquée du monde, donc qui dépend de tout ce que tu viens d'expliquer, ça nous polarise et ça fait qu'on n'arrive plus trop à se parler. Et ça, en quoi est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que ça pose en fait comme problème? Parce que on a toujours un peu tendance à dire ah oui, bah maintenant on n'arrive plus à se parler ou on est de plus en plus polarisé. Mais est-ce que c'était pas déjà le cas avant? Est-ce qu'on se parlait plus? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution dans ce sens?
Alors le problème n'est pas nouveau, hein. C'est Socrate qui dit à Alcibiade, non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais que les ignorants, tu crois les savoir. Donc c'est, voilà, il y a 2000 ans, parce que c'est la manière de fonctionner des humains, le problème se pose déjà. C'est-à-dire que
Ouais.
depuis toujours, on aime simplifier. Et on a besoin de simplifier. Donc c'est pour ça qu'on a inventé les mythes. C'est pour ça qu'on crée des dieux un peu partout, puis après un grand dieu par endroit, pour expliquer simplement le monde, qui nous paraît extrêmement. Tout est hyper complexe. On ne peut pas se contenter de cette complexité et de cette ignorance totale. Donc on s'invente des choses, on s'invente des interprétations. Alors depuis, on a fait mieux. On a créé des méthodes de compréhension du réel qui ont été plus efficaces. Notamment en construisant la méthode scientifique et en organisant collectivement le doute, en s'autorisant à douter de tout et en challengeant nos idées, en frottant, en limant notre cervelle à celle des autres, comme disait Montaigne. Et donc on essaie de construire de la connaissance, avec la philosophie aussi, voilà. Et c'est forcément toujours imparfait. Mais. Donc le problème n'est pas nouveau et ce problème de surconfiance entre guillemets n'est pas nouveau. C'est ce qu'on appelle l'effet de Nick Kruger aussi, c'est-à-dire plus on dès qu'on devient un petit peu compétent dans un domaine, on a l'impression qu'on en sait beaucoup et puis plus on creuse, plus on se rend compte qu'en fait c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais la problématique qu'on a aujourd'hui et qui est très particulière à notre époque, c'est que ça c'est sous stéroïde, c'est-à-dire que ça a été cette confusion. Et organisé de manière inédite par les algorithmes, par les réseaux sociaux, par le fait qu'on est en permanence bombardé d'informations et qu'on a tous un écran dans la main et qu'on est tous connectés en permanence, donc on est sursollicité, c'est-à-dire notre attention est sursollicitée, on rend notre attention de plus en plus mauvaise. Tu vois, aujourd'hui, je crois que le temps d'attention moyen d'un humain, c'est 8 secondes, enfin, c'est moins qu'un poisson rouge. Donc c'est là où avant, si tu veux, bah parce qu'on était moins bombardé d'infos, parce qu'on avait moins d'écran, parce qu'on était moins exposé, bah on était quelque part plus capable de se poser, de raisonner, d'écouter un petit peu l'autre. Et puis il n'y avait pas cette organisation, cette binarisation des idées, puisque finalement, quelque part, même si le journal de 20 heures n'a jamais montré le réel tel qu'il était, c'était juste une version du réel, finalement. Comme on n'avait pas trop d'autres sources d'informations, bah, tout le monde s'accordait de manière consensuelle pour dire ah, c'est à peu près c'est ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui. Donc c'était vrai ou faux, finalement, voilà, ça permettait une forme de consensus, et puis donc voilà, il y avait moins de confusion, ne serait-ce que quand tu avais une élection présidentielle, c'était bon bah, à droite, à gauche, je l'aime, je l'aime pas. Tu connaissais très peu les candidats qui étaient là parce que tu n'avais que les informations qu'on te présentait, et puis il y avait une forme de simplification du monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme il y a autant d'idées que de tribus sur Internet, si tu veux. Tu peux aller trouver toutes les informations que tu veux. On ne sait plus à qui faire confiance parce que le problème du tiers de confiance est devenu extrêmement prégnant, si tu veux. C'est à qui tu fais confiance aujourd'hui? Parce que tu vas pouvoir, en deux clics, aller sur et en deux recherches, aller trouver quelqu'un sur Internet qui te dit exactement le contraire que ce que la personne te dit et te démonter son raisonnement, et la personne a l'air tout à fait digne de confiance, et donc tu es complètement paumé. Donc avant, si tu veux, les gens n'étaient pas d'accord, mais finalement c'était moins un problématique aujourd'hui parce que tu avais moins d'infos, quoi. Et donc c'est un phénomène, c'est-à-dire que quand tu vois la division des sociétés qui est partout la même, aux États-Unis avec Trump, avec au UK avec le Brexit, t'as l'Inde de maudit, enfin toutes les sociétés se tendent exactement de la même manière. Bah, ça s'explique en fait très logiquement parce que tu as les mêmes outils, tu as les mêmes outils entre les mains, tu as les mêmes algorithmes, etc. Et c'est un problème aujourd'hui encore plus parce qu'on a une époque où les enjeux, pour la première fois depuis très très longtemps, en tout cas pour la première fois peut-être, on est dans une civilisation mondialisée, avec des enjeux mondialisés qui concernent l'ensemble de la planète, tu prends juste la crise écologique, qui exigeraient, qui sont mortels, si tu veux, qui sont des dangers mortels, et qui exigeraient de nous qu'on soit capable de faire sens, enfin de donner du sens, faire sens c'est un anglicisme, mais de donner du sens à tout ça, et d'être capable de poser un diagnostic clair, rationnel, partagé par tous, qui nous permettent in fine de trouver potentiellement des solutions. À la limite, s'il n'y avait pas ces sujets-là, tu pourrais dire, bon, bah, c'est pas grave, les sociétés se déchirent, ça s'est toujours déchiré, il y a toujours eu des guerres, etc. Mais voilà, là, on est face à des enjeux qui sont extrêmement complexes, et notre capacité à disserter et à nous entendre sur cette complexité diminue en même temps. Donc c'est ça le problème de notre époque.
Et est-ce qu'il y aurait une façon, entre guillemets, d'y remédier? Donc, enfin, si je creuse cette déficience d'écoute, d'empathie aussi, qui permettrait en fait de créer une discussion avec l'autre, de comprendre en fait qu'il a une vision du monde qui est différente, d'essayer de comprendre sa vision du monde. Comment est-ce que justement, par rapport à ces enjeux planétaires ou même serait-ce que sociaux, puisque si on prend le cas de la France aujourd'hui, là, on est en fin mars 2023, c'est la crise des retraites. Avant-hier, le gouvernement a fait passer leur réforme en faisant appel au 49-3. Enfin, on voit qu'effectivement, très clairement, même au-delà des enjeux écologiques planétaires, sur des enjeux de société presque aussi basiques qu'un système de sécurité sociale ou de retraite. Il n'y a pas de discussion, quoi.
Ouais, mais c'est tout à fait logique. J'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn, d'ailleurs, en faisant le parallèle entre le 49-3, la rencontre avec Xi Jinping Poutine et le rapport du GIEC qui sort tout ça en même temps. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'il y a en dessous, c'est pourquoi ça arrive. Donc, tu en as un, c'est le jeu géopolitique, le jeu des quêtes de puissance, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. 49-3, bah, c'est pareil, hein, c'est le même phénomène que tu as dans toutes les démocraties qui sont malades. Parce que les gens ne s'écoutent plus, se gueulent dessus, et tu finis par avoir quelqu'un qui a une posture autoritaire tout en haut, parce qu'il pense qu'il a mieux compris que tout le monde, et qui n'est plus du tout en écoute. Voilà, donc tu as ça partout. Hein. Et puis de l'autre côté, bah, le rapport du GIEC, ça illustre quelque chose qui est en train de se passer, qui est que même quand on arrive à poser un diagnostic scientifique clair, finalement tout le monde s'en fout. Et que finalement, on n'arrive pas aussi à poser le diagnostic dans son intégralité, c'est-à-dire ce que fait pas le GIEC, c'est de faire clairement le lien, enfin ça commence à arriver, mais entre la problématique climatique, le fonctionnement du modèle économique, et le fonctionnement du modèle économique et l'énergie, et notre quête de puissance, et les inégalités, etc., etc. Et en fait, tant que tu n'as pas posé le diagnostic dans son ensemble sur ce qui est en train de se passer quant à cette trajectoire de la civilisation, t'es pas en mesure de poser les bonnes questions. Et c'est des questions qui fâchent, c'est des questions qui sont extrêmement complexes, je sais, dont on ne sait même pas si on serait en capacité d'y répondre, parce qu'il n'y a pas d'instance internationale pour répondre à ces questions-là, parce qu'on n'a pas tous la même avis, les mêmes intérêts, etc. Mais on n'en est même pas à poser de diagnostic. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail avec le livre, c'est de dire, on n'a aucune chance de s'en sortir si on ne regarde pas ce qu'il y a sous la surface. Et ça commence par là, si tu veux. Ça commence par comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les structures qui conditionnent l'émergence de ces tendances, qui elles-mêmes conditionnent l'émergence des événements qu'on voit.
Et comment est-ce qu'on fait en fait pour, tu vois, toi et moi, on passe notre temps à faire ça parce qu'on a décidé d'en faire notre activité professionnelle. Toi à travers le podcast, cette réflexion, moi à travers le podcast et maintenant la recherche. Mais une grande partie des gens
Pas le temps,
n'ont
ouais.
pas ce temps disponible en fait pour. Et Et tu le disais très, très bien, très justement tout à l'heure, en fait, tu vois, par exemple, tu vas lire, on va lire des livres, on va lire des rapports, et puis à un moment donné, on va se rendre compte qu'en fait, parce qu'on a de plus en plus de connaissances sur tel sujet, que cette personne qu'on a lue, à qui on faisait confiance, bah, en fait, il a raconté des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou en tout cas un peu erronées, ou pas assez nuancées par rapport à ce qui serait réellement le réel. Et donc, on doute aussi en permanence. Même quand tu consacres un peu ton temps à ça. Et du coup, en termes de porte de sortie, tu vois, c'est un peu, alors, je sais pas si désespérant est le terme, mais je vois mal, tu vois, ce que je me dis à chaque fois, c'est comment est-ce que, effectivement, on peut remettre de l'esprit critique, du travail de réflexion, d'analyse, etc. Mais dans une société où bah, les gens passent leur temps à courir et où tout est fait pour prendre leur attention.
Bah, tu peux pas.
Ouais.
C'est pour ça que c'est intéressant de pour quelqu'un qui s'intéresse à cette problématique de transformation de la société doit s'intéresser à la technologie, par exemple, à comment fonctionne l'algorithme, etc., etc., aux jeux de pouvoir, à ce qui ne se voit pas, aux structures de l'ombre, aux mafias, etc., etc. Parce que sinon, en fait, tu passes à côté d'une partie du diagnostic. Et effectivement, aujourd'hui, une des choses qui conditionne la culture mondiale et les idées mondiales et les possibles, ce sont ces structures technologiques des réseaux sociaux qu'on a évoquées, etc. Et puis le fait que bah, tout nous empêche d'avoir de l'attention, tout nous empêche d'avoir du temps de réflexion. C'est aussi, même ça va être aller jusqu'à ce qu'on nous apprend à l'école aussi, hein. Au fonctionnement de l'école, etc. Et de fait, on est un peu coincé. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il nous faudrait réapprendre à penser, prendre du recul, réapprendre à écouter, parler de la complexité, croiser les sujets entre eux, ne pas se crier dessus, pour peut-être arriver à nous entendre sur un diagnostic, pour peut-être arriver à trouver des solutions. Et on est coincé dans du TikTok, du feed de réel, dans du Hanouna, et puis dans le jeu politique tel qu'il est devenu aujourd'hui, si tu veux. Donc effectivement, c'est un peu désespérant, parce que tu dis, on n'a même pas la base. C'est-à-dire, si on était sur une trajectoire, entre guillemets, positive, d'augmentation du niveau de connaissance, de réforme de l'éducation qui fait que les gens sont plus instruits, plus respectueux, à l'écoute, etc., tu pourrais dire, ok, ces choses qui nous arrivent, mais on va dans le bon sens. Donc quand tu te rends... Donc, moi, j'ai pas de ma réponse à ça, si tu veux, c'est de dire bon, ben, on peut essayer quand même. C'est-à-dire que on peut essayer de faire des formats longs, on peut essayer de, comme tu le fais, comme on le fait tous les deux, comme plein d'autres le font, on peut essayer de au moins mettre ça à disposition. Et puis peut-être que si vous avez le temps, et l'ouverture d'esprit, vous irez écouter, et peut-être que ça changera quelque chose dans votre manière dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport à votre travail, etc. Donc tu pousses pour essayer de créer ce que j'appelle des émergences un peu dans le système, parce qu'on ne sait jamais. Mais le fait est que tu te frottes Tu vois, c'est comme quand on parle de nouveaux récits, on dit qu'il faut construire de nouveaux récits pour demain, parce que c'est que comme ça que ça changera. Je dis, ben oui, mais en fait, vous êtes face à la machine médiatique avec 10 fois plus de moyens, face à Netflix, Mais ça commence à bouger, tu vois. Tu as Netflix qui commence aussi à produire des choses qui vont dans le bon sens, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a un bon sens, mais qui vont dans ce sens des nouveaux récits, de faire réfléchir. Donc il y a aussi des choses qui sont en train de se passer. Et donc tu as toujours l'espoir de te dire que ces petites ondes vont créer des grosses vagues, etc. Parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Mais c'est très compliqué de faire bouger le système. Et c'est important, moi, c'est important de se rendre compte qu'on est face à un gros machin, quoi. Et je prends cette image que le système, c'est pas un mur que t'écroules. Le système, c'est un gros chamallow tout mou, quoi. Et que c'est énorme. Et le seul but, c'est de continuer à grossir. C'est de continuer à accumuler de toujours plus de utiliser toujours plus d'énergie, toujours plus de ressources pour continuer à grossir. C'est ça le système. C'est ça l'objectif du le fait civilisationnel majeur. C'est cette course vers toujours plus gros, toujours plus. Et on continue de faire ça. Et tu peux pousser dans un coin, la tendance reste la même. Donc les émissions continuent, donc le climat continue, donc la destruction du vivant continue, etc. Et nous, on est toute petite chose pris là-dedans, on dépend en plus du système, parce qu'on ne peut pas vraiment en sortir, et on se demande comment on va recréer les conditions du dialogue. Très compliqué. Juste ça, très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je m'arrête un petit peu à ça. C'est-à-dire, la seule chose que j'essaie de faire, c'est de promouvoir l'écoute, le doute, l'humilité, parce que je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant là, que sans ça, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Peut-être que je me trompe complètement, hein. Peut-être qu'en fait, on n'a pas besoin de ça, qu'on n'a pas besoin de gens qui doutent, parce que certains te diront ça pousse à l'inaction et que donc ça favorise le maintien du statu quo. Entre guillemets, dire « Ah, je vous dis que tout c'est plus compliqué que je vous pensais, il faut douter ». D'ailleurs, c'est un argument souvent utilisé en politique pour dire « voilà, oh, c'est compliqué, vous ne pouvez pas comprendre ». Alors qu'en fait, il y a des choses, tu pourrais dire « Non, finalement, c'est plus simple, il suffit d'arrêter la machine, de ralentir et de saboter, et voilà, j'en sais rien ». Mais moi, c'est ma manière d'être au monde, c'est ce que j'essaie de, c'est ma croyance qui est de dire de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à s'accorder sur quoi que ce soit, il n'y a rien qui se passe. Et je vais te sortir une citation de Donella Meadows qui va un peu dans ce sens-là, tu vois. Donella Meadows, donc épouse de Denis Meadows, qui a écrit le rapport Meadows et qui était une penseuse complexe, on va dire. Qui disait « La ressource la plus rare n'est ni le pétrole, ni le minerai, ni l'air pur, ni le capital, ni le travail, ni la technologie, c'est notre capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à rechercher la vérité plutôt qu'à avoir raison. » Je pars de ça. Voilà. C'est une de mes boussoles.
Et tu ne penses pas qu'on ne peut pas parler avec tout le monde? Alors, ça nous emmène sur une pente un peu glissante. Et je sais, pour avoir pas mal écouté aussi si tes podcasts et à travers les intervenants sur la notion de bien, mal, de juste, de pas juste, etc., que c'est bien évidemment complexe. Mais est-ce que face à la crise existentielle et aux enjeux écologiques actuels et à des personnalités ou des personnes physiques ou morales qui sont éminemment nuisibles et délétères, est-ce que se dire qu'il faut rentrer dans une logique d'écoute ou de dialogue avec ces personnes-là, est-ce que c'est pas forcément emprunter une mauvaise stratégie? Tu vois, je me dis, est-ce qu'on va vraiment pouvoir dialoguer avec M. Poutine ou Xi Jinping et même, tu vois, enfin, des gens comme Jeff Bezos ou Elon Musk, tu vois, est-ce que je considère donc effectivement comme des gens nuisibles, mais c'est ma vision. Est-ce que en fait on peut parler avec tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas une problématique, enfin une autre stratégie à adopter en fonction des cas en fait?
Alors bien sûr, on n'est pas obligé de dialoguer, hein. Et d'ailleurs souvent on le fait pas. Et puis il y a des fois où c'est contre-productif. Il y a plein de contre-exemples là-dessus. Puisque on peut se placer dans une logique de rapport de force qui est très intéressante comme grille de lecture, en se rendant compte que c'est toujours la loi du plus fort ou la loi du plus puissant. C'est toujours le puissant, même tu peux même aller jusqu'à dire c'est toujours le plus puissant physiquement, entre guillemets, matériellement, militairement, qui va in fine imposer sa manière de voir les choses, sa loi, ses règles. Et là, on est dans une logique très nietzschienne, en fait. C'est le jeu de la puissance et la puissance de la vie et finalement la morale c'est l'arme des faibles qui vont essayer de mettre une couche là-dessus pour pouvoir égaliser le terrain de jeu entre guillemets, alors que in fine c'est toujours le plus fort finalement qui va imposer ses vues. Comment dire, il y a plusieurs manières de répondre à ça, je pense. D'une part, c'est intéressant de se rendre compte que on part toujours de son point de vue, une fois de plus. C'est-à-dire qu'on va, comme tout le monde pense avoir raison et être du bon côté, comment tu fais pour savoir qui va avoir le droit, qui est légitime pour forcer l'autre à adopter un point de vue ou à adopter un comportement? Et donc là, c'est très compliqué parce que tu veux dire, de mon point de vue, j'estime que je sais pas, enfin, que Elon Musk, c'est le mal, tu vois. De mon point de vue, par rapport aux informations que j'ai. Donc, ce gars-là est nuisible et donc, il faudrait le mettre hors d'état de nuire ou ne pas lui parler, etc.
Ce que tu dis là, pardon, je t'interromps, mais c'est qu'en fait, il faudrait avant tout s'accorder sur une éthique.
Bah, c'est le problème, c'est le point de départ. C'est-à-dire que quand je dis moi, je ne suis. Tiens, on va prendre plus simple quand même. Macron, là, Macron, c'est vraiment horrible sa vision des choses. C'est intolérable ce qu'il fait. C'est vraiment le mal. C'est de mon point de vue. C'est-à-dire parce que j'ai un certain nombre d'éléments et peut-être que parfois on s'accorde sur un point de vue majoritaire. On peut être vraiment beaucoup à penser la même chose. Mais on peut imaginer que de son point de vue. Imaginons un instant qu'en fait ça soit pas un grand méchant totalement cynique qui veut le mal de tous les retraités, futurs retraités français, et que de son point de vue ils se disent bah en fait moi j'ai une responsabilité, j'engage la France par rapport, et donc sa rhétorique, c'est-à-dire les gens ne voient pas que en fait on est surendetté, que le jeu financier c'est de il y a que les marchés qui nous auprès desquels j'emprunte ont leurs propres règles, et que si je ne joue pas avec ces règles, je mets la France dans la merde pour les 20 années à venir, parce qu'ils vont augmenter nos taux, et que donc on est vraiment à risque. Donc ma responsabilité, contre tous, c'est de faire passer cette réforme de retraite, parce que les autres pays européens sont déjà à 67 ans, et que donc on n'est pas crédible avec une retraite de 62 ans, qu'on n'est plus écouté, là, là, là. Les gens ne le voient pas, donc je fais ça pour l'avenir de la France, même si on m'en veut, bah, je le fais quand même. De son point de vue, on peut se dire que peut-être qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Et que donc lui-même pense être du bon côté. Je sais, je dis pas qu'il a raison, je dis absolument pas. J'essaie de te mettre deux secondes à la place de l'autre. Mmh. Et tu peux avoir ça à chaque fois pour tous les personnages que tu as cités. Tu vois, du point de vue de Poutine, Poutine va dire bah moi ça fait 15 ans que je dialogue, 15 ans que je dialogue avec le camp d'en face en leur disant il est hors de question que ces pays soient dans l'OTAN, que vous puissiez pousser vos pions là-dessus, parce que j'estime que c'est un danger à terme pour la Russie d'avoir l'OTAN à nos portes, et parce que les États-Unis poussent leurs pions comme ils le font toujours. Regarde, ils ont été en Irak, ils ont fait une guerre illégale. Regarde, ils ont l'extraterritorialité de leurs droits. C'est dégueulasse. Je vois pas pourquoi eux, ils imposent ça au reste du monde, ce qui est quand même aberrant d'ailleurs quand ils pensent que quand tu ouvres un compte en banque à Hong Kong, tu dois signer un papier américain disant que t'es pas américain. Enfin, tu vois, t'as des trucs de fou comme ça qui se passent. Et donc, je refuse ce truc-là. Ça fait 15 ans qu'on se fout de moi. Et ils essaient de pousser. Ça suffit, j'attaque. Le dialogue, ça ne marche plus. Je ne dialogue plus. Tu vois, marrant. Tu dis, ah, tiens, OK. En fait, lui, il était dans une posture de dialogue pendant longtemps. Et puis, on s'est foutu de lui. Il estime qu'on s'est foutu de lui. Et donc, j'y vais. De notre point de vue, tu peux dire, bah non, enfin, c'est pas du tout ça. C'est un contre-argumentation, évidemment, qu'il voulait envahir. Et puis, voilà, c'est le mal. Mais lui, sa vision, c'est de rétablir la puissance russe ceux qui parlent russe, ils doivent être dans la Russie, etc. OK. Donc, tu arrives, si tu veux, à quelque chose dans une forme de relativisme philosophique qui peut être aussi très, comment dire, très paralysant. C'est-à-dire que parce que où est le bien, où est le mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc. Mais en tout cas, moi, pour moi, je trouve ça intéressant déjà de se rendre compte. Et pareil, je te cite Spinoza, c'est-à-dire nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Mmh. Ok. C'est-à-dire, tu vois, donc tu fais le truc à l'envers. Tu juges quelque chose de bon parce qu'en fait, c'est ce dont tu as envie ou parce que c'est ce qui t'avantage. Mmh. Voilà. Donc, ok. Donc déjà, tu peux raconter ça. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet de prendre une distance et ça rend aussi le dialogue possible. Mais parfois, effectivement, tu te retrouves face à confronter à quelqu'un qui lui, va utiliser cette posture de neutralité, de relativisme pour finalement pousser ses pions et pour, entre guillemets, te la faire à l'envers. Il dit, ouais, t'es mignon avec le droit, tu vois, la morale. Et puis pendant ce temps-là, moi, je suis dans un rapport de force et donc je fais ça. Et tu t'en reviens au problème d'Aladier-Hitler ou Chamberlain-Hitler ou peut-on parler à Hitler ? Non, non, regardez, l'intuition de Churchill ou de Gaulle, il va nous la faire à l'envers, entre guillemets. Ça ne sert à rien de parler avec des gars comme ça parce que de toute façon, il va attaquer. Donc, c'est donc rapport de force. Donc, il y a des gens, effectivement, au bout d'un moment, tu peux te dire, ça ne sert à rien de parler avec ces gens-là. On est obligé d'être dans la violence. On est obligé de ne pas se laisser faire parce que ce n'est pas du vrai dialogue. Tu vois, donc c'est aussi où qu'on est en train de nous manipuler. Donc c'est aussi intéressant de voir dans quelle logique l'autre est. est-ce que lui-même est dans un dialogue manipulatoire? Est-ce que lui-même est dans un dialogue pour gagner du temps? Est-ce que c'est du faux dialogue ou du vrai dialogue? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'ouverture possible? Donc, c'est pour ça, donc tu ne vas pas dialoguer, c'est pour ça que je dis tu peux dialoguer avec tout le monde, sauf avec les gens qui eux-mêmes ne sont pas dans une posture de dialogue. Et là, ça n'a aucun intérêt.
C'est un peu ce que dit Schopenhauer pour le coup aussi, pour le coup, pour, dans l'art d'avoir toujours raison. Sur le, alors, pas tellement sur le dialogue, mais sur le débat. Et pour, sur le fait de est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde et à quel moment en fait le débat est propice à une certaine construction intellectuelle et c'est effectivement quand les deux parties sont, arrivent sur la table avec l'ouverture et la volonté d'en ressortir grandi quelque part.
Et tu le vois d'ailleurs constamment à la télé, hein. Tu vois que pourquoi la plupart des débats sont stériles, parce que t'en as inévitablement, enfin souvent, tu as une des deux personnes, enfin, souvent tu es dans un jeu de rapport de force politique où tu vas essayer de sortir gagnant du débat à la fin. Et donc, tu n'es pas dans un dialogue constructif. Tu n'es pas là pour construire une pensée à deux. Ce qui est une vraie conversation constructive, c'est on va construire une pensée à deux et on va tous les deux essayer d'en ressortir grandi. Mmh. Tu es dans une joute oratoire avec un enjeu qui est un enjeu de puissance à la fin, qui doit y avoir un gagnant et un perdant. Et le gagnant, ça va être celui qui a sorti la petite phrase et qui s'est montré plus sachant que l'autre ou plus qui a pris le dessus, entre guillemets. Et donc là, tu es dans un débat de type rhétorique, entre guillemets, où il ne s'agit pas de construire la connaissance à deux, mais d'imposer son point de vue. Et voilà. Et donc, tu es dans une logique où tu arrives dans le terrain de jeu en te disant je n'ai aucun intérêt à être dans l'écoute. Je suis là pour démontrer, pour écraser l'autre. Mmh. Et donc, si tu arrives, toi, face à quelqu'un comme ça, dans une posture d'ouverture et d'écoute, évidemment, tu te fais allumer. Ouais. Parce qu'on ne va pas te laisser parler, parce qu'on va te couper tout le temps, parce que... voilà. Donc, ça ne fonctionne pas. Il suffit qu'il y en ait un des deux, si tu veux, dans ce jeu-là, qui refuse de jouer le jeu, et il n'y a plus de, il y a pas de dialogue, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas aussi de... Moi, je suis très ouvert pour dialoguer avec tout le monde. Mais par contre, ça m'intéresse de le faire sans débattre, déjà. Parce que je ne suis pas là, donc dans une posture d'écoute. Et puis ça m'intéresse de le faire avec des gens qui sont capables de m'expliquer pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, tu as quelqu'un qui va t'asséner des vérités, et puis tu le laisses d'y raconter n'importe quoi. Et puis, et en fait, tu ne t'auras même pas expliqué d'où viennent ses sources, pourquoi il pense ce qu'il pense, etc. Donc tu ne construis pas de la connaissance.
Et justement, tu vois, quand tu te rends compte... imaginons que tu te mets dans une posture de discussion avec quelqu'un ouvert, vraiment l'idée de construction, mais tu te rends compte qu'il pense ce qu'il pense par rapport à des opinions ou des faits qui sont vraisemblablement faux, en tout cas d'après toi, ce que tu en connais. Comment est-ce que tu... On en revient un peu à ce qu'on disait au début, mais comment est-ce que tu te bases, en fait, sur un socle de faits sur lesquels on peut s'accorder et qui permettent, en fait, de construire un échange, mais sur la base d'une certaine vérité, en fait. Comment on établit une vérité partagée?
Bah, c'est très compliqué. Et peut-être plus compliqué que ce qu'on veut bien se raconter, en fait. Tu vois, tu as ce truc de Paul Valéry, ce qui est simple est toujours faux et ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc on a ce dilemme, si tu veux, qui inévitablement, si tu veux, tu prends l'exemple d'un platiste qui est convaincu que la Terre est plate parce qu'il a vu plein de vidéos sur YouTube. Et bah, va essayer de lui démontrer que c'est faux. Ouais. Tu peux pas. Tu ne peux que en l'invitant à regarder d'autres sources. D'une part, qui vont peut-être débunker ses premières sources. Et puis, donc ça veut dire qu'il lui-même doit faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Et inévitablement, tu te retrouves aussi confronté au problème de la confiance avec les sources que tu proposes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi-même, je crois que la Terre est ronde, parce qu'on me l'a appris à l'école, parce que j'ai estimé que les sources étaient de confiance, mais rien ne me le prouve. Si tu veux, j'ai pas la capacité, j'ai pas les connaissances mathématiques, physiques, etc. pour résoudre les équations par moi-même, pour faire les observations par moi-même, etc. Donc, très compliqué le problème de la confiance. À qui tu fais confiance? Et qu'est-ce qui te fait dire que ce à quoi tu fais confiance est légitime? Je veux dire, le rapport du GIEC. Ah, on se base tous sur le rapport du GIEC. J'en parle dans le livre. Tu sais, à la fin, je dis... Pourquoi finalement t'en arrives à ça quand tu te rends compte pourquoi on n'avance pas? Parce que tu te rends compte qu'on n'a pas les mêmes référentiels de. Tu prends Greta Thunberg qui dit I want you to panic, je veux que vous paniquiez. Et elle a totalement raison dans son référentiel qui est basiquement le rapport du GIEC, qui nous dit les gars, ça va pas le faire. Donc elle fait confiance aux scientifiques. Et elle trouve qu'elle a raison de le faire. Parce que quand même, il y a 99%, 9 et quel, voire 100%, enfin, jamais 100%, mais de consensus là-dessus, que c'est sérieux, parce qu'elle a confiance aussi dans le processus scientifique. Okay. Mais si, d'une part, tu tombes dans quelque chose qui te dit, en fait, je ne fais pas confiance en la science parce que ça marche pas, hein, la science se trompe tout le temps, ou je fais pas confiance dans les scientifiques, dans la communauté scientifique, parce que... Le modèle de publication ne fonctionne plus parce qu'il y a toujours des intérêts cachés. Et on a bien vu ça pendant le virus, hein, pendant le Covid, on était en plein là-dedans. À qui faire confiance? Parce que voilà, ça ne fonctionne pas. Donc le GIEC, voilà, c'est qui ces gars-là? Voilà. Ou alors que tu es un économiste et que tu dis le GIEC, ça n'est qu'un organisme parmi d'autres. Et puis moi, en fait, quand on parle de décroissance, j'entends récession. Et quand on parle de récession, j'entends guerre. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes économiques, s'il y a eu la guerre, bah, vous êtes des dangereux décroissantistes. Parce que ce que vous voulez, in fine, ce que vous proposez, c'est la guerre. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un problème avec le climat, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il faut décroître l'économie parce que ça a des conséquences à encore plus court terme qui sont dramatiques et on trouvera bien des solutions. Parce que je crois en l'esprit humain. Donc, tu arrives sur une espèce de dialogue de sourds parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Parce qu'on n'a pas le même référentiel de départ. Parce que tu en as un qui va dire, vous êtes gentil avec votre guerre, mais de toute façon, si on continue sur cette trajectoire, c'est la fin de l'humanité, c'est guerre partout. Donc, et là, tu dis, ouais, j'y crois pas. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est très compliqué de se dire, j'ai totalement raison, l'autre, c'est le méchant, donc je vais l'attaquer, je vais être violent. Et que, parce que, en fait, le camp d'en face pense la même chose. Tu vois, c'est rare de trouver des gens qui ont pris un fusil en se disant je suis en train de défendre le mal. Tu prends un fusil pour défendre le bien, sauf si tu es fou, tu vois, ou sauf si tu es complètement nihiliste ou que tu t'en fous de tout. Mais voilà, c'est toujours le problématique de terroriste pour les uns, résistant pour les autres. Donc, bah, tu avances, tu poses tes pions, et donc moi j'en suis arrivé à cette idée que d'abord, ce qui pourrait être intéressant, c'est de recommencer à s'écouter parce que aussi, et j'en voulais en venir à ça, ce que je constate, c'est que cette manière de faire entre guillemets, de pousser ses pions de manière violente, d'être dans des luttes violentes, bah, quand tu regardes la trajectoire de l'histoire, tu peux te dire par moment ça a l'air de marcher, tu obtiens des choses, mais in fine, on en est là, quoi. In fine, on en est arrivé là. Donc il y a est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que si demain on fait la révolution et on impose nos idées aux autres et on dézingue la cinquième et on met les écolos au pouvoir parce que quand même c'est ça qu'il faut, ça va donner quoi en fait comme société? Est-ce que t'as pas créé une espèce de. T'as pas lancé un mouvement de pendule qui va te revenir en pleine gueule?
Pour des activistes, pour des militants qui essayent de faire changer le système par rapport, on va dire, à la crise écologique, enfin, pas la crise, aux enjeux écologiques de manière générale. Une fois qu'on s'est dit tout ça, bah, déjà, un, comment pas tomber dans le fatalisme, tu vois? Et quelle posture adopter, en fait, dans ce travail de militant?
Bah, ma réflexion là-dessus, c'est, puisque inévitablement, j'en arrive à... Je pense que quand on a vraiment creusé tous les sujets, qu'on a croisé tous les trucs, on arrive à une forme de désespoir. Parce qu'on se dit, c'est trop gros. La trajectoire est complètement dingue. Ça nous emporte. Voilà, donc déjà, il y a souvent... Tout le monde passe par une forme de travail de deuil. Tôt ou tard, à mon avis, on y arrive. Tous ceux qui ouvrent ces sujets-là tombent, sont d'abord dans une forme de déni. Je pense que la plupart des gens sont dans une forme de déni encore, ou ne veulent pas ouvrir ces sujets-là, ou continuent de se bercer d'illusions, en disant ça va le faire. Mais quand tu sors du déni, tu descends la courbe du deuil là, de Kubler-Ross. Et donc tu puises dans autre chose pour continuer. Soit t'en es resté à la colère et tu vas dans une forme de colère et donc de rapport de force anti-va, tu te dis c'est pas possible, j'y vais, je vais dans la violence, etc. Soit tu reviens à cette idée d'éthique personnelle en disant en fait, ouais, je vais continuer d'agir, je vais changer de vie, je vais faire complètement autre chose parce que une fois que j'ai ouvert la boîte de Pandore, enfin, une fois que j'ai regardé ce qui se passait, je peux plus faire mon travail comme je le faisais avant, j'y crois plus ou je suis trop distancié ou ça n'a plus de sens. Donc je vais faire autre chose. Et pour moi, ce qui a fonctionné, si tu veux, c'est de dire je fais autre chose, pas pour sauver le monde, pas pour sauver les baleines ou pour j'en sais rien. Je le fais parce que c'est encore une fois qui j'ai envie d'être. C'est ce que j'ai envie de faire. Et parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, tu prends quelqu'un, je parlais de Claire Nouvian, voilà, qui est très très forte sur l'activisme sur les océans. Elle, ce qui l'apporte et ce qu'elle a besoin d'être aujourd'hui, c'est d'être dans une combattante. Elle y va, elle pousse, elle continue, ça fait des années qu'elle fait ça, elle continue de puiser l'énergie parce que elle se dit j'ai pas le choix, ça m'épuise. Ça m'épuise, je me prends des claques, j'aime essayer de faire la politique, etc. J'y vais, je pousse contre. C'est Sisyphe, quoi. Je pousse un peu, ça recule, je pousse un peu, ça recule. Je suis contre des. Il y a des petites victoires et puis des grandes défaites en face, mais c'est pas grave, en fait. C'est ma vie. C'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de. C'est ce qui me porte. Et oui, c'est épuisant, mais voilà, c'est qui je suis. Et c'est là-dedans que je trouve mon énergie. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un comme ça se finit par se cramer. Et c'est le danger, souvent. C'est pour ça que quand tu y vas pour changer le monde, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça dépend pas de toi. Pas que de toi. Même pas de toi du tout, peut-être. Et donc, souvent, tu es en burn-out. Tu finis par t'écrouler. C'est pour ça que moi, ça me semble intéressant d'avoir cette posture de prise de distanciation en se disant, peu importe, en fait, si ça marche. J'y vais parce que. Parce que j'estime qu'il faut y aller éthiquement. Parce que. Et puis, d'après mon éthique personnelle, d'après ce que je vois du monde, de ce que je perçois. Et donc, ça peut aller loin, hein, cette éthique. Ça peut aller jusqu'à une éthique du sacrifice. T'as des gens qui vont dire, je suis prêt à mourir pour ça. Je suis prêt à mourir pour ma cause. Je suis prêt à mourir pour la justice. Parce que c'est pas juste, parce que je suis prêt à mourir pour les générations futures, etc., etc. Et tu trouves des gens dans tous les domaines pour ça, hein, y compris dans le camp d'en face. Et donc, bah, tu es dans ce rapport de force, dans cette lutte, et tu y vas. Et là, chacun a sa boussole personnelle. Tu as des gens pour qui la justice est la vie, d'autres pour qui, bah, pas du tout, en fait. C'est pas grave, c'est comme ça que fonctionne le monde, il y a de la justice partout, etc. Donc, bah, c'est pour ça que je ramène à ça. Et ce que je partage à la fin du livre, c'est ce que ça veut dire pour moi. Sans dire ce que ça veut dire pour les autres, en disant que ça, chacun va faire de ces informations que je partage ce qu'il veut, à partir, bah déjà parce que chacun va comprendre ce qu'il veut bien comprendre, personne n'a la même lecture, même quand les phrases sont écrites telles qu'elles sont, moi je les ai écrites d'une certaine manière, mais c'est toujours pareil, le lecteur il s'empare des choses et ça ne t'appartient plus. Et puis après, il va passer à l'action ou pas, mais il va passer à l'action en fonction de son point de départ, de qui il est, de ce qu'il peut faire, et puis de ce qu'il ou elle a envie de vivre. Mais c'est toujours comme ça, finalement.
Bah, merci beaucoup, Julien, pour cet échange. Je rappelle ton livre, Le monde change et on n'y comprend rien, que je recommande vraiment chaudement à tout le monde, même si vous pensez déjà avoir une bonne compréhension de ces enjeux. Voilà, on découvre vraiment plein de facettes. Tu vois, ça fait 5 ans que je passe 100% de mon temps à creuser ces sujets, et pourtant j'ai appris encore des choses en lisant ton livre, et ça m'a amené à d'autres réflexions. Donc vraiment merci, et puis je te dis à bientôt.
Merci à toi, Jean-Philippe. Merci.